Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Des propos cohérents.
Des opinions différentes. Vous écoutez
Dutrisac.
Et les chercheurs en immunologie, je me débarrasse du mot parce que c'est difficile à prononcer, à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, André Veillette est avec nous. Monsieur Veillette, bonjour.
Bonjour, monsieur Dutrisac.
Bon, vous, vous dites ça à tous les jours, là, immunologie, hein?
Non.
Non?
Ben, c'est ça. Les autres qui disent ça.
Ah, tu mets sur ta carte d'affaires, t'arranges-toi avec ça. Dis donc, M. Veillette, là, on voit, je lisais, 1522 épisodes de réinfection présumées ont été recensés au Québec, 300 d'entre elles, ces infections, après la vaccination. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ces chiffres-là?
Ben, je pense qu'il faut pas trop s'alarmer. C'est presque normal, en fait, de voir ça. On sait que, pour ce qui est des gens qui ont été infectés, avec le temps, leur immunité va diminuer progressivement. Puis c'est la même chose avec le vaccin, surtout s'ils ont reçu une seule dose. Donc, il va y avoir une protection. La protection va diminuer avec le temps. Et puis, c'est normal, surtout s'il y a des variants qui circulent, qu'il y a du virus donc qui circule, que les gens puissent être réinfectés. Dans la plupart des cas, ça devrait être pas vraiment un problème parce que les gens ont quand même une protection, même si elle est partielle. Et donc, il devrait. Je pense que dans la plupart des cas, c'est pas mentionné dans l'article en question, mais dans la plupart des cas, ça devrait être des patients qui sont ou des individus qui sont moins symptomatiques que la première fois. Là où ça pourrait être un problème, c'est si on a des gens qui ont mal répondu au vaccin ou vraiment qui en ont arraché beaucoup la première fois qu'ils ont été infectés. Là, par exemple, les personnes âgées ou les personnes qui sont immunocompromises. Alors ça, chez ces gens-là, évidemment, là, ça pourrait être un plus gros problème, surtout si c'est un super variant là, qui est vraiment problématique, comme par exemple celui qu'on a présentement là, un peu partout dans le monde, le variant Delta. Ouais, donc, pour la plupart des gens, ça devrait être correct, mais pour certains, ça va être un gros problème.
Okay, la job des médias dans ce cas-là, là, à la suite de cette pandémie ou pendant la pandémie, M. Veillette, là, c'est essayer de comprendre là, ce qui est... Tu sais, parce que là, tout à coup, on s'est mis à parler des variants, on s'est mis tous à capoter en ligne, tu sais, à propos des variants, l'Inde, le Brésil, celui de Terrebonne, je veux dire, là, ça n'arrêtait pas. Là, on parle de réinfection. À quel point là faut savoir décoder ces termes-là et ces alertes-là?
Je pense que on a un virus qu'on connaît pas beaucoup, hein, qu'on apprend encore à comprendre et à connaître.
Ouais.
Lui, il est très futé. Donc, je pense que tout changement, il faut voir ça d'une façon circonspecte. Il faut faire attention. Et puis, je pense que c'est un peu dans ce contexte-là que c'est bon d'être un peu alarmiste. C'est sûr qu'il ne faut pas non plus capoter, comme vous dites. Donc, il faut essayer de faire la part des choses. Les variants, jusqu'à venir, ont été des problèmes, mais pas des énormes problèmes. Il y en a une couple qui sont plus infectieux, donc qui se transmettent plus d'une personne à l'autre. Puis, il y en a une couple qui sont associées avec plus d'hospitalisation puis plus de complications. Mais c'est pas noir et blanc. Ceci étant dit, c'est des variants et puis ils nécessitent des niveaux plus élevés de protection, d'anticorps. En particulier pour éviter que les gens deviennent malades. Alors, c'est dans ce contexte-là qu'on a dit, à un moment donné, bon, une dose, ça semblait correct pour bien des gens, pour les souches initiales du virus qu'on a utilisées pour faire les vaccins.
Ouais.
Mais quand on a les variants de type celui qu'on a présentement, le variant Delta, à ce moment-là, c'est clair qu'une dose, ça suffit pas.
Mais il va,
les
variants, je comprends, les variants là, c'est sans fin là, comme c'est là. Là. On va nous en envoyer sans arrêt. Là, il y a le Delta, il va en avoir un autre, puis à chaque fois, on va se demander est-ce que les vaccins sont encore compétents, performants face à ces variants là.
Tout à fait. Ça se peut que ça arrête à un moment donné. Ça se peut que, vous savez, il y avait par exemple en 1918, la grippe espagnole, il y a eu des millions de gens qui sont décédés. C'est un variant de la grippe, un variant d'un virus qu'on a encore, H1N1. Mais ce variant-là, il est disparu pour quelque raison que ce soit. Donc, s'est retourné à la souche initiale, qui est la souche H1N1 qu'on a régulièrement là, ici dans le monde. Donc, ça se peut qu'à un moment donné, il y ait un variant, mais que ce variant-là soit un variant moins problématique, qui fait qu'on le tolère, puis ça devient juste un rhume. Mais tant qu'on n'a pas vu ça, je pense que chaque fois qu'il y a un variant qui arrive, surtout quand il devient assez prévalent, comme dans le cas du variant Delta présentement, ou variant indien, je pense que c'est correct de faire attention, c'est correct de capoter. Moi, je suis pour la transparence, je suis pour l'information du public, puis c'est bon de le dire. C'est sûr, des gens, il y en a qui vont s'énerver pour rien trop, là. Mais aussi, il y a des gens qui vont pas faire attention du tout. Alors, je pense qu'il faut on connaît pas assez pour être cavalier avec le virus à ce point-ci.
Je comprends. OK, quand un scientifique me dit, pour quelque raison que ce soit, je trouve ça, comme vous venez de le faire, M. Veillette, là, je trouve ça inquiétant parce que là, on comprend pas vraiment la nature de la bibitte, là. On comprend pas son comportement, pourquoi ça attaque, pourquoi ça attaque pas, pourquoi ça se replie, pourquoi ça disparaît, pourquoi ça apparaît. C'est troublant, tout ça.
C'est sûr. On le voit live. Je veux dire, on voit l'évolution d'un virus live dans une pandémie. Jusqu'à venir, on a été quand même pas mal, on a été un ennemi pas mal futé. On a eu pas mal de succès avec nos vaccins, avec nos mesures. Mais c'est sûr que le virus a peut-être pas dit son dernier mot, mais je pense qu'on est pas mal équipé pour le contrôler jusqu'à venir. Et bon, on va peut-être avoir des mauvaises surprises, des très mauvaises surprises, mais ça me surprendrait. Mais tout est probable. Alors, c'est aussi important aussi dans ce contexte-là de faire vraiment un monitoring très rapproché de ce qui se passe dans la population, savoir si non seulement si les gens sont infectés ou non, mais savoir quel virus, est-ce qu'il y a tel nouveau variant qui se développe. C'est un peu lent, cette chose-là au Canada, c'est un peu lent aussi au Québec d'évaluer la prévalence des différents variants. Mais bon, ça se fait. Je pense que ça pourrait se faire mieux. Ça se fait mieux dans d'autres pays, comme par exemple la Grande-Bretagne ou l'Angleterre.
Et comment ça pourrait se faire mieux au Québec?
Ben, je pense qu'ils pourraient évaluer plus rapidement, soit par criblage ou par séquençage, les échantillons de virus que les gens qui sont infectés ont. Surtout, comme vous avez dit, ceux qui ont déjà été infectés auparavant ou ceux qui ont été vaccinés. C'est clair qu'il y a quelque chose qui se passe là. C'est peut-être parce que leur réponse immunitaire est d'emblée faible, ou c'est peut-être aussi parce que tout simplement elle affaiblit avec le temps. Si quelqu'un a été infecté en mars 2020, ça fait quand même un bout de temps, là, hein?
Ouais.
Alors ça fait un an, leur immunité diminue. Alors c'est possible qu'ils vont tout simplement être infectés à ce point-ci.
Est-ce que est-ce que ça veut donc dire que ça prendrait une troisième dose?
Ah, alors là, vous y allez dans la bonne direction, je pense, de ce qui est fort possible qu'on va avoir besoin de faire. Alors donc, on va suivre les gens, on leur donne deux doses, on regarde ce qui se passe. Malheureusement, j'ai peur qu'encore une fois, ça va être les gens anti-HSLD qui ont été les premiers vaccinés avec première dose, deuxième dose, et qui, évidemment, sont parmi les plus vulnérables dans la société. J'ai bien peur que ce soit eux chez qui on voit les premiers signes d'affaiblissement du système immunitaire, surtout si on a des variants. Alors, je pense donc qu'il faut les monitorer beaucoup et peut-être même réfléchir au fait que peut-être qu'à l'automne, septembre même, avant même là, la potentielle quatrième vague dont on parle, qu'on leur donne à ces gens-là une troisième dose. C'est peut-être pas tout le monde qui va avoir besoin de ça. Je pense que des gens en bonne santé en ont peut-être pas de besoin, à moins qu'il y ait un variant vraiment très méchant. Mais ces gens-là, je pense qu'il faudrait sérieusement considérer. Je lisais un petit article il y a quelques jours, par exemple, chez des gens qui sont des transplantés, qui répondent pas avec une dose pour développer des anticorps, répondent pas à deux doses, ou répondent très faiblement, dose de vaccin. Puis là, on leur donne une troisième dose de vaccin, puis là, ils répondent.
Ah oui.
Alors, c'est clair qu'il peut y avoir un effet bénéfique de donner une troisième dose, même chez des gens qui ont mal répondu au vaccin auparavant.
OK. Monsieur Veillette, là, dites-moi la vérité. Là. OK? Dites-moi la vérité. Là.
La vérité, toujours.
Quand vous avez regardé le match de hockey, là, à Las Vegas, avec 18 000 personnes dans l'aréna. Qu'est-ce que vous avez dit?
Ah, écoutez, moi, j'aime pas ça, c'est certain. Je pense que c'est jouer avec le feu. Mais ça, je pense que c'est typique des comportements des individus aux États-Unis. C'est malheureux à dire. Ça varie d'un État à l'autre, comme vous savez, dépendant souvent de leur croyances politiques. Mais je trouve que c'est jouer avec le feu. Puis, ils vont probablement se faire brûler, surtout qu'ils ont certains États ont un chiffre lamentable au niveau du pourcentage de la population qui ont été vaccinés, même partiellement. Alors, je pense que c'est jouer avec le feu. Je pense que s'ils le font de façon prudente, ils vont de 2500 à 3500. Je pense que c'est prudent, c'est faire plaisir aux gens tout en étant conservateur. Bon, j'aimerais bien qu'ils fassent des tests rapides à l'entrée pour s'assurer qu'il n'y a pas de gens qui rentrent avec le virus.
Au Centre Bell?
Oui. C'est pas quelque chose qu'on a développé encore là, de façon systématique. Ça serait utile. Je pense que ça serait une indication où ça serait utile. Puis ça pourrait faire partie du prix du billet.
Et pourquoi ça se fait pas, d'après vous?
Ben, les gens en charge de la santé publique, essentiellement, trouvent toutes sortes de désavantages à ça. Ils disent, ah, c'est pas assez sensible, ça va en manquer. Mais si on fait pas de tests, on va tous les manquer. Alors, si on a des tests rapides qui sont quand même fiables au point de vue ici, si c'est positif, ça a tendance à être vraiment positif. Mais c'est vrai que ça va en manquer 10 à 20 % mais 10 à 20 % de manquer, c'est
ben
moins
oui.
que ça en manquer 100 %
Ben oui. Mais t'en pognes 80-90 % en échange.
Tout à fait.
Ben oui.
Alors, je pense que c'est débattu. C'est pas tout le monde à la santé publique qui pense qu'ils sont pas utiles. C'est certains individus. Je pense qu'avec le temps, peut-être qu'on va les convaincre. Ça serait vraiment un outil utile que même les gens pourraient faire à la maison. Où les gens pourraient faire le lundi matin avant d'aller travailler ou un dimanche pour s'assurer qu'ils sont corrects cette semaine-là.
Est-ce que ça devrait venir?
Les entreprises qu'ils font?
Est-ce que ça devrait venir avec le billet? Est-ce que ça?
Ah oui, ça devrait faire partie du coût du billet tant qu'à moi.
Ah oui.
Ça doit coûter. Je pense qu'ils se vendent. On peut les acheter en Ontario. Ils sont livrés au Québec. Je pense que ça coûte comme pour 25 tests, ça coûte comme 400 $. Donc disons 20 $ du test. Ça pourrait facilement faire partie du coût du billet.
Ouais, à 500 $ le billet, je pense qu'on peut amortir ça. Jeff Molson pourrait l'amortir. Dis donc, là, on apprend aussi, M. Veillette, là, qu'il y a 170 000 jeunes adultes de 18 à 39 ans qui ont l'air à bouder la première dose du vaccin. Si les jeunes, quand t'es rendu à 39 ans, là, t'es un adulte, là, t'es plus un jeune. Si cette part de la population là s'entête à pas se faire vacciner, quelles sont les conséquences réel?
Je ne crois pas que c'est parce qu'ils s'entêtent. Je pense que c'est qu'ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de ça. Alors, pour la plupart. Alors, il y en a certains qui ne croient pas au vaccin. Là, ça, c'est sans espoir. On ne les convaincra jamais. Mais pour les autres, ce que j'ai l'impression, les gens à qui j'ai parlé, là, qui sont dans ce groupe d'âge-là, c'est qu'ils pensent que ça ne les concerne pas. Et que s'ils vont être infectés, ils ne seront pas vraiment malades. Puis ils réfléchissent pas trop à plus loin que ça. Je pense que ça va être quel va être l'impact si je le donne à papa à maman ou à grand-papa à grand-maman ou s'il y a des gens dans mon environnement qui sont plus fragiles parce qu'ils sont immunocompromis ou je sais pas quoi.
Mm-hmm.
Alors je pense que c'est parce qu'ils ont pas fait la réflexion nécessaire. C'est là où je pense qu'une des choses qu'on pourrait faire tous individuellement quand on les connaît ces gens-là, je pense que moi je me suis donné comme mission d'essayer d'en convaincre un par semaine. D'aller se faire vacciner. Quand je vois ces gens-là, surtout dans les milieux où je travaille, là, dans l'université, d'essayer de convaincre que c'est une chose qu'ils devraient faire, puis de les responsabiliser, puis de leur dire qu'il faut faire ça pour la société. Je pense que si on fait tous ça, on va sûrement en accrocher davantage. C'est intéressant que les 12 à 17 ans ont répondu beaucoup plus que les 18 à 29 ans.
Est-ce qu'il y a une explication à ça?
D'aller se faire vacciner. Pardon?
Est-ce qu'il y a une explication à ça?
Je sais pas. J'ai l'impression que c'est culturel ou que c'est social ou que ça fait partie des générations là. Peut-être que les 12 à 17 ans sont peut-être plus influencés encore par leurs parents, ça se peut. Mais c'est peut-être aussi culturel au point de vue de chaque génération a son comportement, a sa façon de faire. Alors, je pense que c'est peut-être en partie dû à ça. C'est peut-être aussi dû au fait que, comme j'ai dit, ils sont plus à la maison, alors ils ont plus l'influence parentale. Et puis sont en appart avec des amis, puis eux, bon, la pandémie, ben c'est la pandémie. Hein.
Ouais. C'est drôle, hein? Monsieur Veillette, en conclusion, là, tu te rends compte que t'sais, demander de travailler pour le bien commun, d'être socialement responsable, c'est beaucoup demandé, à moins d'avoir un incitatif, à moins d'avoir un bonbon, une plaque, une médaille, un trophée. Là, tout à coup, c'est quand même désolant, non?
C'est triste. C'est un peu paradoxal aussi que cette génération-là est très préoccupée par le réchauffement global, ce qui est tout à fait approprié. Peut-être que c'est juste une minorité des gens aussi dans cette population-là qui est vocale, mais qui l'est. Ça serait bon aussi si cette génération-là aussi collectivement se préoccupait de de la santé collective dans de l'immédiat avec la vaccination. Je pense qu'on va y arriver, je pense qu'on va les convaincre. C'est pas des non-convaincables, c'est des non-convaincus parce qu'ils pensent qu'en partie, ça les affecte pas vraiment, mais ça va les affecter. Ils peuvent être très malades, ils peuvent avoir la longue COVID, puis ils peuvent donner à papa puis à maman, puis à grand-papa puis à grand-maman, puis eux peuvent être très, très, très malades, ou aux petits frères puis aux petites sœurs qui ont encore.
Bon, mais le message...
Il faut qu'ils fassent attention.
Le message est lancé. Si vous avez un billet pour aller au Centre Bell, y allez-vous à 3500 spectateurs?
Je vais peut-être le vendre.
Puis vous payez les vacances dans le sud au prix que les billets sont, c'est écœurant.
Exact.
Ouais. André Veillette, chercheur en immunologie à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Merci d'avoir pris le temps de nous parler, puis bonne vacances. Moi, je m'en vais vendredi.
OK.
Merci.
Merci beaucoup.
Salut.
Bye.